Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour parler avec les gens, aujourd'hui, c'est Jean. Il est tout seul. C'est Bernard Deliane. Bonjour.
Bonjour, Sylviane.
Alors, nous nous connaissons par votre revue, votre magazine. Oh là là, on est souvent ensemble dans des conférences de presse. Mais aujourd'hui, vous venez témoigner, je ne sais pas, puisque vous avez écrit un livre dessus, mais pour nous parler d'un chemin, d'une réflexion. Vous m'avez dit que vous êtes un marcheur et que vous faites des randonnées. C'est souvent dans les randonnées que vous viennent les idées, ou tout au moins de structurer vos idées. Et là, vous avez voulu écrire, hein, le livre est paru là en novembre 2024. Vous avez voulu parler de ce double meurtre des plantiers qui a eu lieu le 11 mai 2021 et vous avez assisté au procès en janvier 2024. Et vous en avez donc tiré ce récit en immersion dans le procès d'un double meurtre. Ça va être le titre de cette émission, immersion dans le procès des meurtres des plantiers, qui s'appelle l'aigre-scieur au nombre 7. C'était le métier, en fait, du prévenu. C'est ça, l'aigre-scieur, ça vous a semblé évident d'appeler le livre comme cela.
Tout à fait, Sylviane. En fait, d'abord, merci de m'inviter dans votre émission. C'est un petit peu formel, mais merci. En fait, l'aide-scieur, pour moi, c'était le titre que je devais donner à ce livre, parce qu'à la fois, c'est le métier de l'assassin, un métier qui a complètement rapport avec le fait que les deux meurtres, se sont passés dans la Syrie où il travaillait. Et donc, en même temps, scieur, aide-scieur en Cévennes, c'est un métier qui parle Cévenol.
Mais ça aurait pu se produire dans une autre région. Hein. Il ne faut pas non plus associer cela au fait que ce soit dans les Cévennes. Je pense que c'est important.
Bien entendu, c'est le métier qui est un métier Cévenol, mais pas l'assassinat les meurtres proprement dit. C'est pas...
Alors, le livre fait une centaine de pages. Vous m'aviez dit que vous aviez été convoqué pour être juré et que vous n'aviez pas été pris comme juré. Et donc, vous avez voulu assister à ce procès. C'est une démarche un peu particulière. Pourquoi vous vouliez assister à ce procès? Parce que vous aviez été travailleur en psychiatrie ou pour des raisons personnelles ou pour des raisons de citoyenneté ou par curiosité? Pourquoi vous vouliez assister à ce procès?
Ouais. Alors en fait, ce n'est pas le premier procès auquel j'ai assisté. C'est-à-dire que j'ai été convoqué comme potentiel juré à la cour d'assises du Gard, donc à Nîmes, quelques mois auparavant. Et il y a 45 personnes qui sont convoquées et au final, il n'y a que 9 personnes qui restent jurées. Donc je n'ai pas fait partie de ces 9 personnes-là, mais j'ai quand même assisté, par curiosité, aux deux procès où j'aurais pu être juré. Et je dois avouer que j'ai été fasciné par ce que j'ai rencontré. Et que donc, je me suis dit, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Voilà. Et donc, tu as envie d'écrire sur un procès. Et s'il y a un procès qui vient dans les mois qui viennent et qui te donne envie d'écrire dessus, eh bien, tu iras et tu essaieras d'en tirer quelque chose.
Je vous interromps, mais vous connaissiez les plantiers? Et ça a eu un écho particulier chez vous tout de même.
Oui, je connaissais les plantiers, c'est un endroit où j'ai des amis aux plantiers, c'est des endroits où je vais régulièrement. Mais donc au départ, c'était la curiosité qui m'a mené vers la cour d'assises. Et ensuite, ce qui a rebondi un petit peu avec le procès des plantiers, c'est que dans la couverture médiatique qui s'est faite au moment des crimes, et par le fait que le coupable s'est caché pendant 4 jours dans la forêt proche des plantiers, il y a eu une hypermédiatisation. Et qu'en particulier, à plusieurs reprises, le terme est revenu, le paranoïaque, le paranoïaque, le paranoïaque. Et bon, là par contre, ça a résonné en moi par rapport à mon histoire psychiatrique, voilà, mon histoire, l'histoire de mon métier. Et je me suis dit, le terme paranoïa, il est utilisé n'importe comment. Il suffit d'avoir, tout le monde dans sa tête, à un moment ou un autre, se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me regarde? Mais ça dépasse jamais ça. Pourquoi chez quelqu'un, ça peut dépasser cette simple préoccupation et amener jusqu'au meurtre?
Alors, vous allez bien sûr résumer pour nos auditeurs un petit peu l'affaire, mais ce livre, c'est le livre sur le procès. Hein. Ce n'est pas le livre sur le double meurtre, c'est sur le procès. Et vous mêlez dans ce livre, il y a deux typographies différentes. Il y a vos réflexions personnelles, hein, qui sont dans une écriture, je dirais, un peu en italique. Et puis, vraiment, le compte-rendu du procès. Vous avez voulu être vraiment exhaustif.
Essayez, en tout cas.
J'ai l'impression de même, parce que 4 jours, c'est tout de même très, très précis. Et puis, vous avez fait, parce que vous m'avez dit, vous preniez beaucoup de notes sur le moment, vous réfléchissez en marchant, mais il y a eu aussi beaucoup de recherches, tout de même. Toutes les notes qui sont en bas de page, sur le fonctionnement de la justice, tout ça, vous ne connaissiez pas, donc vous avez fait des recherches.
Bien entendu.
Alors, pas évident pour tout le monde.
Pour reprendre un petit peu tout ce que vous venez de... Enfin, ce n'est pas un roman.
Non, ce n'est pas un roman.
Voilà. Ce n'est pas non plus une enquête journalistique. Ce n'est pas... Je présente rapidement les faits. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'était de suivre le procès proprement dit. Et donc, ce qui m'a intéressé dans cela, c'était le fait que, à la fois... Un juré se positionne exclusivement par ce qu'il va entendre au cours du procès. Il n'a droit, il n'a accès à rien d'autre, hein, ni à l'instruction en amont, ni il va faire son avis
sur ce qu'il a entendu,
ce qu'il a entendu, voilà. Et ça me ramenait aussi à ce qu'était mon métier, la façon dont je l'exerçais, qui est qu'en psychiatrie, on travaille beaucoup avec la parole. Avec l'écoute, la parole, et aussi prendre en compte, y compris en l'écrivant, pour éviter de passer à côté de choses importantes, tout ce qui est dit. Donc j'avais une pratique professionnelle qui me permettait d'écrire, alors peut-être pas complètement exhaustivement, je suis qu'une personne,
hein,
mais au maximum ce que j'entendais, en essayant de ne pas détourner ce qui était dit, quoi. C'est ce qui se passait aussi dans mon métier, c'est-à-dire on écrit encore d'ailleurs à la lettre ce que la personne dit, et après on l'analyse. Et donc, pour revenir au fait que effectivement cette analyse, je l'ai quand je randonne parce que je pense, mais je l'ai aussi parce que tel propos me fait penser à telle chose qui me fait penser à telle autre chose, et pour cela je vais aller creuser indépendamment de ma propre expérience professionnelle, ce qui a été écrit dans la littérature psychiatrique autour de ces concepts de paranoïa, ou voilà, ce type de concept-là.
Oui, parce que c'est vrai que vous avez essayé d'être le plus, comment dire, simple possible. Moi, j'ai buté sur certains mots techniques, vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est votre métier. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur lesquels j'ai buté, mais c'est vrai que c'est une réflexion, d'autant plus que les mots qui sont employés ne sont pas employés de la même façon par la défense et par l'accusation.
Bien entendu. Donc,
y a toujours une interprétation. Il y a toujours... C'est vraiment compliqué. Puis,
c'est légitime en même temps.
Ben oui. Mais ce procès, en plus, est très particulier parce que là, il n'y avait pas à définir la culpabilité puisqu'il était coupable.
Il était coupable, oui.
Évident qu'il était coupable.
Oui.
Donc, c'était plutôt sur la peine.
Pas que ça. C'était aussi, et c'est le propre de tous les procès, ça aussi, je l'ai découvert, c'est que les personnes qui ont été atteintes parce que famille, parce que proche de la personne qui est en l'occurrence assassinée, ces personnes-là cherchent toujours à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé qui explique que. Et là, Valentin Marcon, le coupable, il était évident qu'il était coupable, la personne lui-même. Mais par contre, tout le monde essayait de comprendre qu'est-ce qui l'avait amené à ces gestes-là. Et en fait... Pendant tout le procès, il va parler de son passage à l'acte comme un coup de tête, comme
un pétage de plomb.
C'est exactement, ce sont ces termes, comme un pétage de plomb, mais sans expliquer. Et donc, ça, la psychiatrie permet peut-être un peu d'approfondir la notion justement de passage à l'acte, de pétage de plomb. Qu'est-ce que c'est qui à un moment ne se maîtrise plus, qui fait que mmh. Il y avait cet aspect-là, et il y avait l'autre aspect aussi, c'était aussi pourquoi avoir tué ces deux personnes-là.
Qui
était responsable de rien.
Au mauvais moment.
Ouais, à part qu'a priori, les personnes qu'il vivait, lui, comme étant des persécuteurs à son égard, n'étaient pas ces deux personnes-là. Mais ce jour-là, les choses... C'est les constructions paranoïaques qui amènent ça. C'est qu'au fur et à mesure, ça se remplit. On n'est plus que dans ça. On n'interprète plus que par, par cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qui se passe traverse le filtre de la maladie. Et donc, ce jour-là, au dernier moment, une réflexion a entraîné que...
Bénigne.
Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, si on pourrait dire, c'est que, mais il aurait pu en tuer trois, il n'en a tué que deux. Et il a dit au troisième, non, toi, je t'en veux pas. Mais on se dit aussi, lui-même, il a dit que peut-être il aurait été deux pas de côté ou deux pas plus proche de lui et qu'il aurait aussi été abattu.
Donc, ce livre, c'est toute une interrogation. Je l'ai lu, bien sûr, ce livre. Vous parliez de fascination tout à l'heure quand vous assistiez au procès. Moi, quand j'étais en train de lire ce livre, je ne dis pas que j'étais fascinée, mais j'étais vraiment assez atterrée, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est lourd, mais qu'est-ce qui se passe, mais... Et je vous remercie d'avoir essayé de creuser, de donner des éléments de réponse. Mais je pense que pour nos auditeurs, il faut peut-être, parce que vous l'avez évoqué, mais je pense qu'il faut faire comme vous l'avez fait dans le livre. Hein. Il y a un petit résumé des faits. Je pense que essayez de résumer brièvement les faits.
Oui, je peux essayer.
c'est au début du livre. Hein. C'est de la page 19 à la page, je vais vous dire. Attendez que je tourne les pages. C'est de la page 19 à la page 29.
Oui, non, mais je ne vais pas vous lire les quatre pages, simplement.
Non.
En mai 2025, ça fera 4 ans qu'un matin, Valentin Marcone, qui est donc jugé pour avoir assassiné son patron et un collègue de travail dans la Syrie, s'est présenté à son travail, comme tous les matins, et suite à une réflexion qui lui a été faite par son patron,
Luc Tessonnière.
Voilà, et par son collègue, a sorti l'arme qu'il portait sur lui et les a abattus à bout portant, froidement.
Oui, j'ai on n'aurait pas pu les réanimer, de toute façon.
Non, c'était
les
tirs mortels.
Là où ils avaient été dans la tête, c'était
complètement
irréversible.
Et lui, et ensuite, il y avait une troisième personne qui est restée témoin, à qui il a dit « Non, toi, je te veux rien ». Et puis, il est parti, il est rentré chez lui, il s'est changé. Et il est parti dans la forêt au-dessus des plantiers, dans la forêt Cévenole. Et pendant 4 jours, il s'est caché, en fin de compte, pas très très loin de chez lui quand tout a été su. Il avait agrandi un trou de sanglier pour se cacher dans ce trou-là. Il est resté sans manger, sans rien, pendant 4 jours dans ce trou, alors que dans le village, c'était branle-bas de combat.
Le village était encerclé, les
habitants étaient confinés. Tout un épisode qui a été tout à fait traumatisant pour la population du village, qui est encore actuellement... est marqué, malgré le procès, malgré ce travail, en psychiatrie on dit ce travail psychique qui est en cours, de deuil de ce qui s'est passé, le village reste quand même très 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 marqué par ce qui a été vécu là. Quoi.
Le procès, on reparlera peut-être du travail de deuil, c'est très long et le livre se conclut par « il faut tourner la page », mais ça veut dire
alors,
quoi tourner
voilà,
la page ?
Voilà, alors, moi je ne dis pas vraiment « il faut tourner la page », c'est un propos qui m'a été rapporté par un des habitants des plantiers qui ne comprenait pas que j'écrive un livre sur ça et qui même me disait « de quoi tu te mêles ? C'est une histoire à nous, quoi ». Et en fait, le problème de tourner la page, on arrive à tourner la page si on arrive à mettre en réflexion, c'est pas simple, si on arrive à mettre en réflexion tout ce qui a été traumatisant, en évitant de penser qu'en oubliant, ça sera bien, on n'oublie pas ces choses-là. Et pour ne pas rester irréparablement blessé, ça veut dire qu'il faut arriver à en sortir en étant un peu réfléchi sur ce qui s'est passé. Quoi. C'est pas évident.
Avoir compris peut-être hier.
Peut-être pas compris, mais au moins sortir apaisé.
Apaisé. Alors, j'ai cité Luc Tessonnière, j'ai cité Martial Guérin, le troisième qui a été épargné, Vincent Amalric. Et justement, à la fin, vous voulez signaler combien vous avez été admiratif de l'attitude, justement, des veuves, des compagnes, face à l'assassin de leur compagnon. Et il y a tout ce travail aussi, je trouve... justement, que vous avez mené d'observer. Vous avez vraiment la position d'un observateur. Et ça doit être difficile. Hein. Et c'est pour ça que vous mêlez à la fois les comptes rendus, le plus exhaustivement possible, et puis les réflexions donc personnelles. Donc, je pense que on a là un peu défini, peut-être un peu, entre guillemets, le cadre. Hein. C'est-à-dire, pourquoi vous avez voulu être présent à ce procès? Pourquoi vous en avez fait un livre? Mais en fait, vous, si j'ai bien compris, vous aviez tout de suite l'idée d'en faire un livre, hein, tout de même.
Oui, ouais. Je suis allé à ce procès-là avec l'idée d'écrire pour essayer d'en faire un livre.
Vous aviez déjà écrit un livre, mais tout à fait d'une autre façon. Donc, ce goût de l'écriture, c'est fait de votre métier, oui. Mais c'est aussi la retraite, c'est aussi du temps libre, c'est aussi...
Non, je pense que c'est... Peut-être que ce n'est pas directement le goût de mon métier. Disons que c'est un goût que j'ai eu très tôt, même adolescent, voilà, que la place de l'écrit dans mon métier l'a renforcée. Mmh. Et puis, j'ai toujours, vous faisiez mention du magazine culturel Oh là là, donc je suis rédacteur en chef, voilà. Mais j'ai toujours eu, j'ai toujours collaboré, par exemple, journalistiquement. Ça m'est arrivé de collaborer un petit peu avec la Gazette de Nîmes, ça m'est arrivé de collaborer avec le site, un blog sur le site de Mediapart. Je suis aussi administrateur du Festival des Suds à Arles, le Festival de musique du monde, et je m'occupe du blog de Mediapart pendant le festival, quoi. D'accord. Donc j'ai quelque chose qui est
voilà, ça fait partie un besoin, de votre, un besoin pour de votre moi, vie quoi, voilà, besoin, ça oui. fait partie de votre quotidien. Alors vous avez été aussi vous êtes un amateur de musique, de jazz, de flamenco. Et quand je vous ai demandé de choisir une musique, ça vous a semblé presque évident de prendre Ascenseur pour l'échafaud, le magnifique générique de Miles Davis. Puis on est dans l'ambiance du meurtre, de la cour d'assises. C'est une musique lancinante, fascinante. On retrouve en fait un petit peu ce que vous avez voulu mettre dans votre livre.
Voilà, il y a qu'effectivement... déjà, Miles Davis fait partie des personnes que j'écoute régulièrement, des musiciens que j'écoute régulièrement, bien entendu. Miles Davis, dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, qui correspond à la date du tournage du film, était en train d'être reconnu et par le jazz et internationalement, et particulièrement parce qu'il commençait à se dégager de ce qui avait été le jazz de l'après-Deuxième Guerre mondiale, le bebop, le hard bop avec des trompettistes, effectivement, comme Dizzy Gillespie. Donc, il jouait d'une façon tout à fait différente. Et sa particularité, c'est d'être aussi attentif au silence dans la musique qu'à la note elle-même. Il disait d'ailleurs, pourquoi jouer tant de notes ou trop de notes, alors qu'il suffit de jouer les essentiels. Et donc, c'est quelque chose que je peux aussi peut-être mettre en rapport avec ce que j'avais dans cette idée d'écrire, à savoir d'essayer d'affiner pour essayer de garder que ce qui me paraissait essentiel à dire sur ce que je voulais dire. Quoi, voilà.
Oui, parce que le livre est à la fois court et très dense. Hein. Il faut vraiment être très attentif. Alors, nous écoutons Ascenseur pour l'échafaud. Thank you. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous parlons avec Bernard Deliane, qui est l'auteur donc de L'Aide-Sieur, au nombre 7 éditions, récit en immersion dans le procès d'un double meurtre, le double meurtre des Plantiers. Et je pense que tous nos auditeurs ont conscience que c'est une expérience, vous avez dit fascinante, douloureuse. C'est douloureux tout de même, c'est un huis clos, hein, c'est très théâtral. Et vous connaissiez, vous avez observé, j'ai l'impression aussi, ce théâtre de la justice. C'était un aspect qui vous intéressait, j'ai l'impression. Vous le connaissiez pas du tout ?
Pas du tout, je ne connaissais pas du tout, mais c'est en fait, c'est peut-être ce qui est de l'ordre du drame humain. C'est une sorte de théâtre de la vie, dans ce que là de plus grave. On est confronté chaque fois à des crimes, à des meurtres, à des assassinats. Et donc, indépendamment de ça, on est confronté aussi à la souffrance qu'il y a pendant toute la durée du procès, entre les personnes qui ont été victimes par conséquence des assassinats, les proches, les familles, mais aussi quand même à la souffrance des proches du coupable, de sa propre famille.
Oui, j'allais dire sa femme. Bien c'est sûr, assez étonnant, sa femme, son témoignage.
Hein. Oui, sa femme.
Son père.
Ses beaux-parents, là, en l'occurrence. Donc on a, et aussi, malgré, on va dire, la carapace qu'il s'était façonnée à travers sa paranoïa, aussi la propre souffrance du criminel.
Oui, parce que c'est d'après les photos, il y a quelques photos dans votre livre, mais pas de photos de Valentin Marconnet, c'était un choix.
C'est un choix de droit aussi.
Oui, bien sûr, ce n'est pas du voyeurisme, par contre, les lieux, mais c'est un petit jeune homme qui a l'air très inoffensif, hein, d'ailleurs, physiquement déjà. Donc, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, et j'en reviens au théâtre de cette... vous parlez de l'architecture du tribunal, hein, il y a ce côté toujours antique. Il y a ces marches. Hein. J'ai été très sensible, justement, quand vous décrivez toujours le rôle de ces marches, le rôle de ces estrades. Hein. C'est toujours... on n'est pas dans un lieu banal. Hein. Il y a tout de suite ce poids un peu de la loi, de la République, de la justice, même dans les costumes des juges. Donc, vous avez fait des recherches, là aussi. Vous avez cherché l'origine de ces costumes. Pourquoi du rouge? Pourquoi du noir?
Quand on rentre dans une salle de cour d'assises, en fait, on s'écarte du monde.
Ouais.
On s'enferme.
Dans un huis clos, ouais.
Voilà, on s'enferme dans une bulle, le temps d'un procès, et une bulle qui est très ritualisée, architecturalement, mais aussi par les fonctions, les vêtements de chacun, dans les choses qui sont à respecter, le silence. On ne prend la parole que si le juge
vous la donne.
Personne n'interrompt personne. On doit s'adresser, quand on est témoin, on ne doit pas s'adresser à la salle, on ne doit pas tourner, on doit rester fixé devant son micro et s'adresser au juré. Le juge explique que ceux qui se feront une opinion, c'est ceux qui sont en haut, assis sur la tribune, au-dessus, c'est-à-dire les 6 jurés et le juge et ses deux assesseurs. C'est eux qui se retrouveront dans la délibération. Donc, il faut que chaque personne s'adresse à ces personnes-là. Mmh. C'est pas facile, hein,
parce que... Et ça n'a rien à voir avec les films de procès. Les films de procès, c'est de la fiction. Hein.
Ben oui, ils sont mis en scène. Ils sont davantage mis en scène.
Oui, mais ça donne une fausse image tout de même de la justice.
Il y a des films qui sont quand même réussis. Hein,
mais vous parliez du film L'Exécution, vous parliez...
Je parlais de La Palme d'Or de l'année dernière, qui est un film qui est complètement réussi, qui reste d'ailleurs sur une indécision à la fin, mais bon, voilà.
Ouais. Mais sent cette curiosité, hein, pour conclure l'émission, et je crois qu'on va en faire une seconde, Bernard, parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur travailleur en psychiatrie, comment vous avez réagi, parce que ça pourrait arriver n'importe où. Ça arrive, bien sûr, pas le même meurtre. Mais est-ce que beaucoup de criminels sont des gens qui souffrent de maladies? Ou est-ce que... Là, je vois que vous réagissez, non?
Non, tout le monde... il ne faut pas être malade pour être un criminel. Non.
Mais là, ce qui vous a intéressé, justement...
Mais par contre, on peut avoir une maladie mentale, mais déjà, les maladies mentales sont différentes, parce que si on a, à l'occasion de la deuxième émission, on parle plus particulièrement de la paranoïa, j'essaierai de vous expliquer, de mon point de vue subjectif, et j'essaierai de vous expliquer en quoi c'est une maladie particulière, et qu'il ne s'agit pas d'autre type de maladie comme une bouffée délirante où tout à coup on n'est plus conscient de ses actes. Valentin Marcon était tout à fait conscient de ses actes tout le temps, mais englué dans un type de délire qu'on appelle systématisé, d'où il ne pouvait plus sortir.
Écoutez, merci à vous Bernard de nous expliquer tout cela dans une seconde émission. Donc on se retrouve très bientôt dans Itinérance, dans Immersion, dans le procès du double meurtre des Plantiers. Donc émission numéro 2.
Merci beaucoup à vous.
Avec les gens.